Justice, enfance.
Bonjour et bienvenue sur RLP, Radio Libre en Périgord, en direct de nos studios depuis Coulommiers-Chamiers, Périgueux, le Périgord, pour un nouvel épisode de Famille, Justice, enfance. Aujourd'hui, un spécial Sapa, Sapa 24. Ils nous ont rendu, elles nous ont rendu visite dans notre studio. Nous avons Audrey, Julien, Martine, Céline, Léana avec nous. Nous allons parler protection de l'enfance, nous allons parler placement, cette fois-ci du côté des usagers du système de la protection de l'enfance, on va dire ça comme ça. Mesdames, messieurs, merci d'être venus. Audrey, bonjour, tu vas bien ?
Oui, merci, bonsoir.
Bonsoir. Julien, bonjour, tu vas bien ?
Ça va aussi.
Ça va aussi. Martine, une grand-mère aujourd'hui avec nous. Bonjour Martine.
Bonsoir.
Bonsoir. Céline qui nous vient des Landes. Bonjour Céline.
Bonsoir, merci bonsoir. De nous accueillir.
Bonsoir. Et Léana de Bergerac.
Oui. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bon, alors, dites-nous là, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, on voit passer beaucoup de messages. Qu'est-ce que Sapa ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que Sapa ?
Alors, Sapa, c'est parti des Landes. Ça veut dire stop au placement abusif. Alors, oui. C'est pas très joli, hein, bien sûr, comme langage. On pourrait le transformer en fait, on est en train de dénoncer ce que certains pensent être des enlèvements institutionnels ou en tout cas pas totalement réguliers dans la forme et dans le fond. Mais c'est surtout qu'on se bat pour que des enfants placés actuellement en Dordogne puissent trouver la voie de sortie dans leur famille, rentrer à la maison.
Alors,
c'est surtout ça le cœur.
Je vais expliquer un petit peu aux gens. On s'est rencontrés effectivement tous plus ou moins sur les réseaux durant la campagne électorale. La campagne électorale a été un révélateur. Vraiment de ce problème qui touche notre pays. Il y a plusieurs années, les thématiques étaient surtout sur la gestion des divorces, la protection des droits des pères, on va dire, la protection des enfants pour les incestes et les violences intrafamiliales. Et depuis quelques années, on voit venir de plus en plus de retours, de problèmes d'enfants placés qui sont enlevés de leur famille avec des dossiers à la gestion parfois difficilement compréhensibles ou contestables. Et la nouveauté, c'est que nous avons maintenant des parents qui se fédèrent, qui se mettent ensemble sur des groupes. C'est une grande nouveauté. On n'avait pas encore eu ça. Et Sapa est présente, je crois d'ailleurs, dans beaucoup de départements.
Eh ben, y a les Landes. La Dordogne, on est vraiment opérationnel où c'est constitué, mais en fait pas que. Donc c'est pour ça qu'on a deux invités en fait, en plus de notre collectif de Dordogne, Céline et Julien, qui sont en fait, leurs affaires ont lieu dans d'autres départements. Mais on tenait à les inviter justement puisque l'opération aussi pour nous ce soir, c'est de montrer aux parents qui se sentiraient tout seuls dans les autres départements de France qu'on peut les aider en première, on va dire en première instance pour démarrer et créer un collectif dans leur département, autonome. C'est ça que moi, j'essaye de faire comprendre à travers notre passage à ta radio.
Donc en fait, ça passe, c'est de l'entraide, c'est de la mise en réseau, c'est du lien. C'est-à-dire que ce sont en fait des parents qui se regroupent, qui se mettent ensemble pour ne pas rester dans l'isolement. Parce que généralement, ce sont de... Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. Quand on rentre dans ce secteur-là, c'est que nos enfants, pour une raison X ou Y, ne sont plus avec nous. Et puis, on ne se sent pas forcément très bien. Et donc, on va trouver du lien, des autres personnes, pour s'échanger de l'information. Éventuellement, de l'entraide juridique, du soutien. C'est tout ça, Sapa, ou c'est encore autre chose ?
C'est même plus, mais on ne va pas tout dévoiler aussi, par sécurité.
Ah, il y a des secrets.
Mais oui, la base, c'est déjà que des parents ou des mamans, des parents désenfantés puissent déjà se parler. Énorme, déjà.
C'est énorme, déjà.
Il faut
ça,
déjà
pense,
sortir de la honte, de l'isolement. Et trouver une maman ou un papa qui vit la même chose, déjà, c'est la base. C'est déjà énorme, c'est la première étape. Et nous, c'est ce qu'on a vécu en Dordogne. Pourquoi ? Grâce aux réseaux sociaux, puisqu'il y avait une maman qui allait tellement pas bien du fait des placements de ses enfants. Elle trouvait que c'était tellement pas juste et pas normal la situation qu'elle avait fait une page Facebook. Donc ça, c'est parti d'elle. Je l'ai rencontrée il y a un peu plus d'un an maintenant. Ensuite, j'ai rencontré du coup Léana et ainsi de suite. Et on s'est fédérés. Et mine de rien, un an plus tard, on est 12-15 familles en lien. En Dordogne.
Oui,
tout le monde ne s'est pas dévoilé, tout le monde n'est pas prêt à parler en public, tout le monde n'est pas prêt à faire état de son affaire, mais on est déjà au moins 15 familles, on se parle et on a un groupe privé pour ça.
Oui, il y a des WhatsApp, il y a du Telegram, il y a des trucs et tout, il y a de l'échange d'informations, il y a du soutien, il y a de la vie de manière générale. Et il y a aussi des choses. Alors Céline, aujourd'hui, Céline nous vient des Landes, donc c'est SAPA 40. C'est ça.
Oui.
Avec notamment, je crois qu'il y a eu des rencontres. Il y a eu une semaine de camping qui s'est déroulée, me semble-t-il, en juillet, avec des conférences, avec des interventions de spécialistes. C'est aussi un mouvement qui est assez fort dans les Landes.
Qui a démarré, oui, dans les Landes. Pardon. Qui a démarré dans les Landes. Effectivement, je connaissais la famille qui a initié ce mouvement et ce camping. Qui s'était fait retirer trois petits-enfants aussi. C'est de là que j'ai rencontré Audrey de la Dordogne. On y est allé, on s'est rencontrés là-bas et on a maintenu le lien. Et maintenant, on s'échange beaucoup de conseils aussi au niveau juridique, d'avoir plusieurs dossiers. Ça nous permet de les comparer. Ça nous permet de voir venir aussi au niveau des étapes. Parce qu'on se rend compte que les étapes sont similaires, même si les cas sont tous personnels.
On retrouve des schémas, effectivement, voilà, répétitifs, oui, dans différentes affaires. On voit des...
Oui, ouais. Avec chaque département, chaque famille a quand même sa particularité. Et c'est là où tous ensemble, on est plus fort.
Ouais, mais ça, c'est... J'ai bien le croire. J'ai bien vu dans l'étude du milieu associatif qu'effectivement, quand les gens se regroupent, oui. Et puis après, ça finit par du lobbying. Et puis on essaie de faire passer des lois. On essaie de, tout du moins... ça, c'est un des grands axes. Moi, je suis plutôt essayer de faire changer les comportements sur le terrain et de sensibiliser les intervenants dans leur pratique quotidienne. C'est plutôt l'axe d'équité parentale au départ. C'est plutôt sur ça qu'on était. À SAPA 40 qui a démarré là-bas, il faut quand même rendre hommage à ce groupe Telegram où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'utilisateurs et beaucoup d'informations.
Oui. Il y a beaucoup d'informations et il faut, quand on est parent désenfanté, il faut aussi pouvoir les encaisser parce qu'on encaisse déjà le désenfantement, on encaisse notre propre dossier personnel.
Oui.
On a tout cet échange d'informations et on a, comme vous avez dit, il y a la partie terrain. Où faut continuer à vivre au jour le jour quand même. Faut gérer.
C'est très important ça, parce qu'un jour il faudra qu'on soit présent pour nos enfants et ce jour-là il faudra être debout.
C'est ça, et il faut qu'on gère aussi chaque visite médiatisée, chaque rendez-vous éducateur.
Lorsqu'il y en a, oui.
Lorsqu'il y en a, il y a les rapports d'audience, les jugements qui arrivent. Ensuite il y a des comptes rendus d'éducateurs. Il y a énormément de choses sur le terrain à gérer. Effectivement, il y a tout un accompagnement de chaque personne et des familles aussi qui sont autour. Il n'y a pas que les parents, il y a aussi les grands-parents, il y a les amis aussi.
Quand on retire un enfant, on lui enlève sa vie sociale, ses clubs de sport, ses activités extrascolaires, ses amis d'école, l'intégralité de son arbre familial, mine de rien. Ce n'est pas uniquement les parents directs. Ok. Et là, aujourd'hui, je vais demander... On va prendre la voix de la sagesse, la personne la plus mature du groupe aujourd'hui, la grand-mère, Martine, la grand-mère, en fait. Martine, vous avez combien d'enfants ?
Trois enfants,
Vous avez trois enfants, vous avez combien de petits-enfants ?
Sept petits-enfants.
Donc, vous avez assisté à l'évolution de la société depuis 30 à 40 ans au moins, je veux dire.
Voilà.
Qu'est-ce qui vous surprend aujourd'hui éventuellement dans ce début du XXIe siècle, là, les années 2020, là, grosso modo ? Est-ce qu'il y a une grande différence avec les années 80 et 90 dans la gestion de la famille ?
Alors au niveau, si vous voulez, dans les années 80, c'était beaucoup plus caché. C'était un sujet honteux. Mais là, je trouve qu'à notre époque, c'est plus violent.
Donc vous voulez dire qu'en fait, il y a beaucoup plus de placements aujourd'hui qu'à 40 ou 50 ans ?
Je pense, parce qu'avant, c'était plus ou moins caché.
Oui.
Et le mot « ASE », je ne le connaissais pas avant d'arriver dans la région.
C'était la DAS.
La DAS, c'est
la
ça.
La DAS qui était renommée en ASE dans les années 80.
C'est ça,
crois,
c'est ça.
En 86.
Donc, voilà, je trouve que... J'entends que ça autour. Après, c'est vrai que comme je suis dans ce système-là, mais...
Que voulez-vous dire par « je suis dans ce système-là »
Alors, ce que je veux dire, c'est que ça me touche directement. Oui. Donc, effectivement, maintenant,
Est-ce que vous voulez bien nous dire comment vous êtes touchée ? Pour qu'on comprenne l'origine de votre voix, de quoi vous, comment vous parlez, dites-nous. Mais
dans le sens que ça me touche, parce que c'est en enlevé, j'emploie ce terme-là, mon petit-fils.
D'accord. Donc, en fait, vous avez pu élever vos enfants, mais vos enfants, à vous, ont eu des problèmes de placement avec vos petits-enfants, c'est ça ?
Qu'une.
Une.
Que ma fille.
D'accord.
Voilà. Et pour moi, ça a été violent.
Oui.
Et on ne cherche pas, quand il y a des... Style, ils ont affecté ma fille, mais à nous, les grands-parents, on ne nous a pas demandé. Nous avons perdu nos droits, le pourquoi, le comment. On nous cite dans des affaires, on ne sait pas pourquoi. Mmh. Jamais j'ai été convoquée. Un coup, je vous donne une visite. Un coup, je vous le donne. Ils jouent trop avec ça. Et c'est pour tout le monde pareil. Il n'y a pas que pour moi. Hein. Je m'en aperçois. Et je vois que maintenant, il y a des grands-parents qui commencent à bouger.
Oui, oui, il y en a plusieurs. Il y en a d'ailleurs... il faut que je rappelle Fabienne. Là, je m'excuse si tu nous entends, Fabienne. Je n'ai pas eu le temps. Je dois faire sûrement ce week-end. Ce que je veux dire, c'est que vous... Ce que vous faisiez quand vous aviez votre enfant, vos trois enfants,
oui.
Avez-vous l'impression qu'aujourd'hui, la génération d'après, les générations d'après, ont en fait la même façon d'éduquer, la même liberté d'éducation ? Ou est-ce qu'il y a plus d'intrusion de l'État ? Est-ce que ça marche moins bien ?
Il y a un peu plus d'intrusion, déjà au niveau de l'éducation nationale.
Oui.
Ils mettent bien un pied dedans. Pour moi, ça démarre de là.
Mmh.
J'ai travaillé un peu dans ce système-là. Avec des enfants comme ça, avec des pathologies. Et j'ai trop entendu de choses. Et pour un oui, pour un non, du moment que vous ne rentrez pas dans le moule de la société, c'est mon ressenti. Mm-hmm. Donc là, pour eux, il y a danger.
D'accord.
Voilà.
Donc en fait, la définition du mot danger a évolué en 30 ou 40 ans.
Ah, totalement.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y a 40 ou 50 ans, c'était vraiment les enfants, parce qu'ils étaient martyrisés, on ne les voulait pas.
C'est ça.
C'était vraiment... On allait vraiment sauver des enfants, même si là où ils étaient, ce n'était pas forcément génial. On a tous entendu des choses. Vous avez entendu sur la DAS, tout, c'est vrai. Ce n'est pas vrai tout le temps, mais c'est vrai souvent, comme j'aime à le dire. Donc, effectivement, il y a ça. Aujourd'hui, ce n'est plus forcément le cas. C'est aussi sur des doutes. C'est aussi sur des dénonciations calomnieuses. C'est aussi sur des emballements du système, c'est parfois sur des raisons qu'on ne comprend pas. Il y a toujours effectivement les enfants qui en ont besoin, il y a toujours effectivement des enfants qui nécessitent d'intervention, mais dedans on se retrouve, on ne comprend plus très bien ce que fait la machine.
Exactement, et de là après ça s'enchaîne, mais d'une folie, d'un enfant placé, et même la médecine qui se met dedans, le corps médical.
Oui, parce que tout le monde dénonce au 119 pour un oui ou pour un non. Voilà.
Voilà. Et puis, pour qu'un enfant reste dans leur système, le moule, eh bien, ils y vont à coups de médicaments, monsieur.
Oui, il y a une médication. Il y a plein de problèmes. Il y a plein de problèmes. Julien, tu as quel âge ?
40.
40. Tu as été confronté à ça ? Tu avais quel âge ?
Ça va faire un an maintenant.
Ça va faire un an maintenant.
Ouais.
Ça s'est fait en douceur ou ça s'est fait très violemment ?
Plutôt violemment.
Plutôt...
Mais en fait, j'avais plusieurs problèmes en même temps. Donc, j'allais dire, une fois que l'inflammation est là, ça peut chauffer encore plus. Ça ne change plus grand-chose après.
Bon,
il y a un cap, en fait, où ça ne change plus grand-chose. Moi, j'avais déjà des soucis personnels dans le couple, donc à régler. Et donc
tu fais partie du tiers des parents en fait qui sont les enfants sont placés suite à un conflit parental. C'est
oui,
grosso modo 33%,
oui,
34%.
C'est ça.
Un peu plus, tu penses, toi?
Moi, j'ai un responsable d'association de suivi éducatif qui l'année dernière m'a confirmé que 80% des dossiers de placement correspondaient juste à des conflits conjugaux et parentaux.
D'accord. Bon, c'est vrai qu'on a du mal à avoir des chiffres. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a constaté et que j'avais essayé d'écrire. On a beaucoup de mal à avoir des statistiques. Tiens, toi, Céline, tu as été confrontée à ça. Ça a été violent aussi ou on a fait attention à toi ? C'est simple. Est-ce que lorsque l'État intervient, est-ce qu'il fait attention aux parents ? Est-ce qu'il fait attention aux gens ? Ou est-ce que c'est un éléphant dans un magasin de porcelaine ?
Alors, nous, ça a été un peu différent.
Oui.
Parce que j'avais de la violence du père. J'ai demandé de l'aide à des assistantes sociales pour sécuriser notre enfant pour le passage de bras pendant les
Et ça, c'est le deuxième tiers. C'est les femmes qui sont victimes de violences. Après, on leur reproche de ne pas avoir réussi à protéger leurs enfants.
Et en fait, on a, après dénonciation de l'assistante sociale, on a été placés, mon fils et moi, dans un centre mère-enfant.
D'accord. Vous avez été protégés les deux.
Alors, on a été protégés après
le
centre.
Au départ, les deux. D'accord.
N'était pas des plus protecteurs au niveau de l'enfant.
Mmh.
Et ensuite, on m'a retiré mon fils directement de ce centre.
Mais pourquoi ?
Pour le placer au foyer départemental de l'enfance, parce qu'à 2 ans et demi, la juge et les éducateurs voulaient le voir évoluer en autonomisation seul.
Mais non, mais à 2 ans et demi, on...
Tout à fait.
D'accord.
On a coupé l'allaitement net, je l'allaitais encore, et on l'a fait partir directement du centre où on était.
Donc très,
et
après, très brutal.
Très brutal, sur une demi-journée. Hein. J'ai passé l'audience, je suis sortie d'audience à 13h, à 18h, il l'emmenait.
D'accord, donc vraiment à la hache et sans aucune prise en compte de la souffrance et de l'humain. Quoi.
C'est ça.
D'accord.
Et après, on rentre chez soi et donc on nous dit...
Il y a des gens qui t'accompagnent ou t'es toute seule là et puis
après le centre, on
tu regardes la corde qui pend du plafond et tu y réfléchis un peu. C'est le...
Non, ouais, après, il faut réagir.
Non, mais je veux dire, on est vraiment laissé tout seul, c'est ça c'est,
On est laissé seul. Après, le centre m'a proposé une nuit supplémentaire.
Ah, c'est gentil.
Dans le centre, mais les enfants me demandaient où était passé mon fils quand même, donc d'accord. Ça faisait mal au cœur et je voulais pas, je pouvais pas. Donc, réactivité, je voulais rentrer chez moi, reprendre toutes mes affaires.
Tu avais un endroit où aller quand même ?
J'avais mon propre appartement.
D'accord, ok. Bon, ils t'ont pas dit on vous laisse une journée de plus et vous. D'accord, bon.
Non. Après, là où il y a eu la défaillance a été qu'on n'ait pas été aidé en amont avec une éducatrice pour les passages de bras, suivi et puis. Voilà, ou à notre domicile. On a eu des jugements et des rapports sans que personne vienne à mon domicile au préalable.
Ouais, alors ça, c'est aussi un très, très gros problème, c'est que la détection n'est pas faite par des personnes qui ont de l'expérience ou qui sont... C'est une discussion qu'on a eue régulièrement. Et l'intervention, elle est assez inhumaine, oui. Léana, pareil, les choses se sont faites avec, psychologie, un processus que tu comprenais, qui était justifié, ou alors tu t'es faite laminer comme les autres et tu te retrouves toute seule.
Ah ben, je me suis faite laminer complet. On demande de l'aide parce que...
Toi, tu as demandé de l'aide aussi.
Parce que Mathis, ça,
malheureusement,
avait des problèmes
on commence à dire à tout le monde, n'allez pas demander de l'aide.
Exactement.
Si votre enfant il s'est fait agresser au centre social ou à l'école, malheureusement, demander de l'aide, ça devient dangereux.
Ouais. C'est ça. C'est surtout.
C'est dur de dire ça.
C'est ça. Et puis même l'école, je pense que ça appuie un petit peu aussi parce qu'il n'arrivait pas non plus à se tenir à l'école. Donc, du jour au lendemain, je fais une demande pour qu'on puisse m'aider. Mmh. Et puis, ça s'est transformé en placement. Et dans l'après-midi même, pareil, il a fallu que j'aille le déposer parce qu'ils n'ont pas tourné ça comme un placement direct. Ils m'ont dit, venez, on doit avoir rendez-vous avec votre enfant.
D'accord.
Je me suis présentée devant le service du HA. Ils me l'ont pris et puis ils sont partis avec du jour au lendemain, plus d'images.
D'accord. Et toi, ils t'ont laissé là comme ça partir ou quelqu'un a pris soin quand même
de... Moi, après, je suis rentrée chez moi toute seule, donc psychologiquement, c'était compliqué.
Ah bah tu m'étonnes.
Il n'y a pas eu de suivi ni rien, donc du coup, psychologiquement, c'est très très compliqué. Donc à vivre ça, c'est vrai qu'on s'enferme généralement sur soi-même, on n'a plus envie de faire confiance à personne, le relationnel devient très compliqué et c'est tout qui rentre en jeu. Et ça, c'est vrai que cette partie-là, malheureusement, les services sociaux, pour eux, c'est anodin, alors que c'est quand même bien présent.
Oui.
Et c'est là où il n'y a pas du tout aussi de travail de fait venant de leur part. Parce qu'ils disent qu'il faut un travail entre le psychologique des parents et des enfants, mais techniquement, il n'y a rien. On dit qu'on est là pour le bien-être des enfants, mais déjà, en faisant une cassure pareille par rapport à un placement, le bien-être de l'enfant, il n'est plus contribuable là-dedans.
Il n'y a pas de balance bénéfice-risque.
Non, exactement.
Ouais.
Donc, du coup, ça pique, quoi.
Alors, ça, c'est le premier point. C'était quelque chose que j'ai avec beaucoup, beaucoup d'invités. L'État regarde de plus en plus nos enfants comme une chose qui leur appartient.
Exactement.
Ils en font un petit peu... C'est un peu un sac de sport. Hein, ils en font
c'est
un
exactement
peu ce qu'ils
ça.
Veulent. C'est malheureux, mais on en arrive un petit peu à ça. Oui, Julien.
C'est-à-dire
oui.
qu'une fois que l'enfant est atterri dans les bras du conseil départemental, c'est un petit peu au revoir, en fait, à son enfant.
Alors, il y a très très peu de dossiers, enfin j'ai pas tous vu, mais j'en ai vu sur plusieurs centaines, il y a très très peu de dossiers où les sociaux arrêtent de travailler sur un dossier. ça peut arriver lorsqu'ils n'y arrivent pas, que c'est vraiment un échec et que vraiment le parent est inattaquable. Et là, ils vont dire oh, bah, vraiment. Mais ça reste exceptionnel. En fait, là, ils essaient de s'auto-alimenter. Ils ont beaucoup de mal à se dénier et ils ont beaucoup de mal à arrêter de travailler sur un cas. Ça, c'est exact.
Oui, puis j'ai quand même ressenti qu'il y avait quand même un vide réel de la protection de l'enfance. Quoi.
Voilà. Oui. Audrey, toi qui gère un peu Sapin 24, donc il y a les, tout ça, etc. Est-ce que ce qu'on te dit là, ça résonne? Est-ce que là, on a des cas particuliers, mais en fait, est-ce qu'on peut dire que c'est souvent comme ça?
En tout cas, ce que je peux dire sur la Dordogne, on suit 12-15 affaires et elles sont représentatives du national. On retrouve de tout, les couples en difficulté ou en séparation. Il y a des cas où c'est... Ça va plus loin. C'est des gens qui étaient déjà en difficulté avec, par exemple, le système de l'éducation nationale, qui sont déjà usés en fait de ce qu'on commençait à dire avec Martine, de cette main prise, cette tenue de nos enfants. Ça use les parents. Donc en fait, on se rend compte que ceux qui ont déjà été en difficulté avec un système hospitalier, avec une école, avec des établissements publics, vont se retrouver en difficulté avec l'ASE aussi. Ça, c'est un pont que je vois maintenant.
Alors ça effectivement, ça m'est revenu aussi plusieurs fois. Tu es à l'hôpital, ça se passe pas bien. Tu commences à critiquer l'institution de l'hôpital. Pan, c'est une information préoccupante.
Et le juge, quand il te reçoit, tu as compris le film.
Oui, hein, parlé avant. C'est une information préoccupante. Aucun procureur ne dira on n'y va pas. Ils vont tous demander à ce qu'on aille regarder. Aucune personne qui fait de la prévention ne dira pas il ne faut pas aller regarder. Aucun juge ne dira mon Dieu, s'il se passe un truc. Donc en fait, si tu relances une pente où forcément tu arrives à la fin, au minimum à l'AEMO, le plus souvent tu arrives à une proposition de placement. C'est-à-dire que rentrer au 119, c'est ça.
Et moi, j'ai remarqué aussi sur des dossiers... Et
critiquer l'école aussi, je veux dire. Tu as un conflit avec une institutrice, tu te retrouves aussi au conseil départemental.
Et c'est surtout que quand il y a une saisie du procureur, en quelque sorte, soit d'assistante sociale de l'école, les enfants sont d'abord retirés des familles et ensuite, ils instaurent une mesure d'investigation, une enquête auprès de la famille. Et en fait, on se retrouve avec des parents qui ne comprennent pas que les éducateurs viennent enquêter chez eux, alors même que l'enfant n'y est plus.
Ouais,
ça a été retrouvé dans pas mal de dossiers aussi.
Oui. Alors, il faut aussi savoir que l'État... Je le dis aux gens, mais là, on n'est pas en train de découvrir, je vous ai fait venir, mais on connaît un petit peu. L'État, en fait, intervient beaucoup dans les familles, mais à quel rythme? Vous voyez, c'est qu'en fait, ils veulent intervenir dans les familles, mais est-ce que c'est au rythme de l'enfant? Est-ce que vraiment l'État est équipé? Est-ce qu'ils sont formés pour ça? Est-ce qu'ils ont toutes les billes pour le faire? Ça sent le professionnalisme? Dites-moi un peu, là.
Alors, pour moi, alors qu'on venait en seul.
C'est-à-dire?
Comment l'expliquer?
En fonction de leurs moyens, sûrement.
Je vais pas pleurer là-dessus quand même.
Non, mais je veux dire, s'il y a une dénonciation, il y a un signalement qui a été fait le mardi, ça veut dire qu'on vérifie le mercredi, comment ça se passe?
Eh bien, moi, je vous retourne la question.
Moi, je vois des fois des enquêtes sur 3 ou 4 ans.
En fait, moi, ce que j'ai vécu dans l'affaire de mon fils, puisque ce n'est pas la mienne, c'est l'enfant qui est l'objet et le sujet tout
départ,
le temps.
Oui,
mais après, les parents désenfantés vont dire mon affaire, c'est logique.
Oui,
c'est normal.
Parce que
ça nous prend tellement.
C'est parce que tu es un parent normal.
Ça crée une extension.
C'est normalement constitué.
Alors, ce qui est intéressant de savoir, par exemple, c'est du concret. Par exemple, Céline, elle a en 2 ans, elle en est à sa 10e audience, à peu près. 3 ans.
3 ans, 11 audiences.
Voilà. Qui c'est qui paye?
Qui paye quoi, la justice ou les avocats?
Ça va avec, parce qu'il y a on en parlera.
Il y a eu de temps en temps où j'ai craqué, j'ai vidé un compte et j'ai payé au début quelques avocats et ensuite aide juridictionnelle.
D'accord.
Donc après, quand tu parlais,
donc tu as dépensé tes économies et ce qui t'appartenait et tu as terminé aux minima sociaux et à l'aide juridictionnelle.
Et ça rejoint, comme tu disais tout
beaucoup,
à l'heure,
que
les services ont du mal à se défaire d'un dossier et qui s'auto-alimentent. S'auto-alimente aussi.
Ouais. Et ça, c'est ce que Livieux Poenaru, il appelle le pacte des négatifs. C'est-à-dire que quand un parent va dénoncer un placement abusif, qu'il estime abusif, qui n'était pas justifié, en face, on va avoir la réponse du ministère de la Justice. Julien, il connaît par cœur, lui, c'est le... Et lui, il bat le record des lettres, tu sais, les courriers, pour prouver que personne ne veut en prendre la responsabilité, tu vois. Donc, on a une collection de courriers et on connaît les réponses par cœur. Ministère de la Justice, on connaît tous leurs réponses. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Les éducateurs, une fois qu'ils t'ont pris ton gosse, ils vont dire, bah, il y a un jugement, donc et adressez-vous
la justice, elle est indépendante,
à la juge, voilà. Et donc, on tourne autour. Mais en fait, c'est ça, le pacte des négatifs. J'adore comment Livu Poenaru l'a expliqué. C'est que forcément, nous, quand on va dénoncer une partie du système de l'assistance éducative, en vrai, on dénonce tout en même temps, on ne fait pas exprès. C'est-à-dire que si on arrive, on dit, bah, c'est illégal, le jugement est illégal, je le sais, je viens de vérifier, je viens d'avoir des billes, ils vont nous regarder, puis non, circuler, il n'y a rien à voir. Donc en fait, ils deviennent complices. Et c'est ça que nous, on vit. C'est qu'on vit des relations avec des éduques, des assistantes sociales, des intervenants, dont on sait qu'ils, ça y est, sont au courant qu'ils sont en illégalité. Puisque nous, on est certains, on est des parents qui l'ont dit, qui l'ont assumé, qui ont dit, de toute façon, un jour, vous allez devoir répondre, en fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, je ne fais rien parce que j'ai perdu, je suis obligée de me soumettre à vous. Parce que si je ne me soumets pas, je ne vais pas récupérer mon enfant. Parce que c'est ça, la vérité. C'est un test de soumission. Ça, c'est mon analyse.
Non, et, c'est beaucoup de choses,
mais,
ça.
Elle est réelle. Comme ça, ouais. La meilleure stratégie pour récupérer ses enfants, la plus rapide, hein, la seule qui marche à coup sûr, c'est la soumission. La soumission totale crée la sortie de l'enfant. La vérité crée une situation de blocage et la situation ne va plus évoluer parce que la façon de travailler de l'ASE, de la psychologie en tout cas, qui est mise en œuvre dans l'institution, c'est le parent doit accepter le placement. Quand il a accepté le placement, c'est le signe qu'il est OK avec ce qui avait été dénoncé. Et c'est après que là, les sociaux estiment que maintenant que le placement est accepté, on va pouvoir travailler avec le parent. Et une fois qu'ils sont sûrs qu'ils ont fait le travail, c'est-à-dire le parent, il a dit oui à tout, mais nous, on peut vous le dire, il y a plein de gens, ils font semblant, parce qu'ils ont compris que l'hypocrisie allait donner plus de rendu que la vérité. C'est-à-dire que de dire, mais non, en fait, j'avais des compétences parentales, j'avais des ressources, pourtant, je les ai démontrées, elles apparaissent à des moments dans mon affaire, il vaut mieux se taire et faire le caniche, malheureusement, devant l'ASE, les ASE, et répondre à ce qu'eux, ils veulent. Mais du coup, on ne répond pas aux besoins de notre enfant. En fait, ça, c'est notre conviction.
Les besoins de l'enfant sont mis de côté, en fait, parce que les services, après, s'axent plus sur le parent.
Parent que sur l'enfant.
Qui essaye, en fait, de sortir le dossier de l'eau, que sur l'enfant en lui-même. Et après, à côté de ça, les enfants se retrouvent dans des situations, dans les foyers, les familles d'accueil, qui sont aberrantes, vraiment maltraitantes pour certains. Et en fait, ça passe à la trappe, parce qu'on s'axe sur les parents.
La protection de l'enfance en France a des résultats déplorables.
Voilà.
Il faut quand même le dire. Oui. Hein, les statistiques sont hallucinantes. Donc, c'est un gouffre financier.
Et on peut comprendre qu'un parent désenfanté soit en alerte maximale. Il vient de se faire prendre son gamin.
C'est son rôle de parent.
Et il sait que de l'autre côté, il y a une chance sur deux qu'il y ait un abus sexuel, un viol ou autre.
Et que le gamin, termine à moitié illettré avec un chien et compagnie.
Donc c'est un peu normal que nous, quand vous nous enlevez nos enfants, même s'il y a un jugement, un papier, qu'on vous dit non, en fait, ça ne nous rassure pas du tout. Donc évidemment que le discours est faussé. On est dans une négation totale.
C'est la Constitution. La Constitution rétablit la primauté biologique. Nous avons le droit constitutionnel d'établir une famille de nos enfants. C'est notre pacte social entre nous. Donc quelque part, on défend un droit fondamental.
Stéphane, c'est qu'en fait, je pense que... Excusez-moi, j'ai cité ton prénom.
Vas-y.
En fait, il faut quand même l'avouer, tout le problème émerge d'une forme de corruption judiciaire, tout simplement.
Alors, j'aime pas le mot corruption parce que ça veut dire je te donne un paquet d'argent pour avoir des choses, si tu veux.
Je
comprends ce que tu veux dire. Corruption, corrompu, dans le sens imparfait, dans le sens imperfection,
que finalement la justice est au courant de ce qui se passe quand même.
Je sais pas, moi je rencontre plein de gens qui essaient de faire de leur mieux.
Je pense qu'un juge n'est pas forcément impartial à chaque jugement. Je l'ai vécu et mon affaire a traîné depuis tellement longtemps. Pour moi, c'est long, un an pour ce qui s'est passé. Et pour tout ce que j'ai mis en place j'ai quand même fait une formation de papa expert. J'ai quand même assisté à toutes les visites médiatisées et j'ai quand même été ouvert au dialogue.
Là où on peut rejoindre Julien, c'est qu'effectivement, moi, j'ai des avocats qui m'ont dit « Madame, vous avez repéré toutes les failles du dossier, toutes les défaillances, tout ce qui ne fonctionne pas, mais vous ne pouvez pas le dire. » J'ai un éducateur qui m'a dit un jour « Madame, vous n'êtes pas assez hypocrite.
Ouais. » Voilà. Ouais, donc on a un problème de surintervention de l'État, on a un problème de lenteur, on a un problème de services qui ne travaillent pas forcément entre eux, on a un problème de formation générale, on a un problème de gens qui refusent d'avoir tort. et on a un problème d'un système qui ne marche pas, en fait.
Oui, et il y a une avocate, Frédérique Martin, qui explique un peu avec un livre de la Cour des comptes.
Vas-y.
Comme quoi, l'argent, en fait, est mis dans le placement, donc dans le retrait des enfants, des familles.
Au lieu de le mettre dans la prévention.
Okay. Dans la prévention, voilà. Et dans l'accompagnement suivant.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons lancer le générique de fin. Et pour ceux qui le souhaitent, qui sont en direct sur YouTube, parce que nous sommes en direct sur YouTube, je propose que nous répondions ensuite aux questions du chat.
Très bien.
À tous, merci d'être venus. À bientôt. Au revoir.
Au revoir. Bonsoir.
Au revoir. RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.